RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh,
Basket Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini, champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges, on est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur rmc.fr. C'est un épisode spécial, un épisode très excitant, puisque nous connaissons le tirage au sort des poules des Jeux Olympiques de Paris en basket. Et on va donc débriefer tout ça avec notre Dream Team, Fred Weiss et Kylian Verov. Salut les gars.
Bonjour.
Salut, salut à tous.
Est-ce que c'est plus facile qu'en 2000, Fred?
C'était pas le même principe, c'était deux grosses poules, donc c'était un peu plus compliqué.
Alors on va vous expliquer le principe de ce Basket Time un peu particulier. On va juste s'adapter à l'actualité, on va parler uniquement des Jeux Olympiques. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes, Boris Diaw, Céline Dumère. On va juste réagir au tirage au sort avec des petits cadeaux en plus, hein, des petits cadeaux bonus. Carmelo Anthony, qui est ambassadeur FIBA, que vous entendrez nous parler par exemple de Wembanyama. Mais l'essentiel est là, on connaît les adversaires de la France aux Jeux Olympiques de Paris. Tiens, tout de suite pour démarrer, pour ceux qui débarquent, je vous les donne. Les femmes, les filles affronteront Australie, Canada et Nigeria en phase de poule. Les garçons, Allemagne, Japon et le vainqueur du tournoi de qualification olympique de Riga, dans lequel on retrouve notamment la Lettonie, le Monténégro et le Brésil. Voilà le programme, on sera en duplex avec les managers de l'équipe de France. C'est parti pour Basket Time.
Le contre Batum,
le contre la finale de Batum.
Yes. Les Jeux Olympiques.
Revenir en équipe de France, jouer avec mes potes pour défendre le maillot bleu, c'est la définition du sport. Dans un stade là où c'est leur ouvrière.
I said I want to play every time, so yes, I want to play, of course.
Allez, 84-78, une minute encore à jouer. Nico Batum qui échauffe le ballon. Allez, Evan, il fait lever son défenseur. Nilikina, allez, France, à 3 points. De lancer France, suivre pour Nando de Colo. Et si, et pourquoi pas, avec dans le corner Nico, l'airball, c'est terminé. La France s'incline en finale des Jeux Olympiques. Mais on est fiers de vous. 87-82, la troisième médaille de l'histoire des Jeux Olympiques pour le basket français, la deuxième en argent. Bravo messieurs, nous sommes fiers de vous.
Alors on espère d'autres médailles pour les bleus garçons et filles, bien entendu. Basket Time spécial Jeux Olympiques de Paris. Dans quelques minutes, Boris Diaw va nous rejoindre donc pour réagir à ce tirage au sort. L'équipe de France masculine s'en sort très très bien. L'équipe de France féminine un peu moins bien, on y reviendra avec Céline Dumère. Donc les adversaires de la France au premier tour, Allemagne, Japon et le vainqueur de ce tournoi qualificatif olympique de Riga. Dans le détail, Kylian va tout vous dire, parce qu'il faut aussi bien avoir en tête que les enjeux, ce ne sera pas simplement de se qualifier, la place sera très importante en raison du format olympique.
Bah, elle est très importante déjà parce qu'on évite de fait les États-Unis au premier tour du fait des diffusions, mais ce qui ne nous empêche pas quand même de tomber sur eux en quart de finale, évidemment. Alors il faut impérativement terminer dans cette première place, ou alors parmi les meilleurs deuxièmes, pour éviter après de prendre au tirage au sort pour les quarts de finale, que ce soit les États-Unis ou alors les autres équipes classées premières. Donc il faut impérativement terminer premier ou meilleur deuxième, et au vu des groupes, c'est ce qu'on disait avant l'enregistrement, ça paraît être le groupe le plus simple pour terminer soit premier, soit parmi les meilleurs deuxièmes, parce que quand on voit les autres groupes, on les a pas développés, mais dans les autres groupes, le groupe A, c'est Canada, Australie, TQO Espagne et TQO Grèce.
C'est ce monstrueux, qui veut dire. Ça c'est le groupe de la mort.
C'est l'Espagne, et donc le TQO Grèce, c'est Grèce ou Slovénie. Donc c'est le groupe de la mort, donc ils vont se taper dessus littéralement, et donc il n'y aura pas de meilleur deuxième parce qu'il n'y aura pas des écarts mirobolants entre les équipes, on peut se projeter sur ça. Et idem pour le groupe C avec les États-Unis, la Serbie, bon, le Sud-Soudan et le TQO du Porto Rico qui est donc l'Italie ou la Lituanie. Et là aussi on peut s'imaginer un groupe pas de la mort parce qu'on sait qui va sortir de ce groupe-là, mais un groupe dans lequel ça va quand même se taper dessus pour essayer d'aller chercher les meilleures places.
Alors on rappelle qu'en quart de finale seront qualifiées 8 équipes et qu'il y aura des têtes de série. Les têtes de série seront les trois premiers de groupe et le meilleur deuxième. Et ensuite, il y aura les autres deuxièmes et les deux meilleurs troisièmes. Donc, se qualifier, c'est pas si compliqué que ça. En revanche, ça change tout d'être premier, deuxième ou troisième. Il y aura un tirage au sort intégral pour le quart de finale. Hein. Donc ça, c'est très important. Si vous êtes premier, bah vous évitez a priori les États-Unis premiers aussi de leur poule. Hein. C'est ça l'enjeu, Fred. Hein.
Oui, c'est ça l'enjeu, mais comme Kylian l'a expliqué, si tu finis meilleur deuxième, c'est pareil. Tu es exactement dans les mêmes conditions.
Simplement, meilleur deuxième, évidemment, c'est aléatoire.
Bah, honnêtement, juste en regardant les poules, effectivement, quand tu vois la poule A, tu te dis, c'est pas possible qu'il y ait un meilleur deuxième, parce qu'effectivement, ils vont tous se tirer la bourre, ça va être très serré, etc. Et de l'autre côté, oui, il y a effectivement deux équipes qui dominent, sauf qu'il faut aussi prendre le différentiel qu'il y aura entre Team USA et la Serbie. Et si Team USA envoie la grosse artillerie comme ils le veulent, il peut y avoir 50 points d'écart.
Ouais.
Et dans ce cas-là, pour finir de meilleur deuxième, c'est très compliqué.
Ouais. Et donc ensuite, il y aura un tirage au sort pour les quarts de finale. Tirage au sort ouvert, ce qui veut dire qu'on peut reprendre l'Allemagne dans un scénario qui peut exister. En quart de finale, c'est possible ça, Kylian ?
C'est possible, tout à fait. Tout est ouvert au niveau du quart de finale. Bon, ce sera peut-être le tirage le plus simple au vu des autres poules. Mais,
Je vous rappelle les groupes, hein, que vous les ayez bien en tête. La France avec l'Allemagne, le Japon et le vainqueur du tournoi qualificatif de Lettonie. Ensuite, nous avons le Canada, l'Australie, vainqueur du TQO Espagne et vainqueur du TQO Grèce, qui peut être Grèce ou Slovénie. Et nous avons un troisième groupe avec États-Unis, Serbie, vainqueur du TQO Porto Rico et Soudan du Sud. On détaille le groupe de la France. L'Allemagne, on dit que c'est un bon tirage, mais l'Allemagne est quand même championne du monde. L'Allemagne, c'est une équipe monstrueuse quand même.
Alors honnêtement, je n'irai pas jusqu'à dire monstrueuse. C'est une équipe qui a très très bien joué à la Coupe du Monde. Il y a eu plein d'aléas qui se sont retrouvés là. Alors ils le méritent largement, évidemment. Mais sur le papier, ce n'est pas l'équipe la plus forte.
Mais tu as une équipe très homogène avec un gros banc.
Exactement. Et une équipe qui s'est construite.
On a les frères Wagner, on a Schröder
qui, quand il est en FIBA, est juste monstrueux.
On a Thiemann à l'intérieur.
Les deux Wagner, Dennis Schröder, Andreas Obst, David Kramer, on a du Maodolo aussi qui est pas mauvais en Euroleague.
Que des bons joueurs.
Alors, sachant que, alors je ne sais pas s'il sera sélectionné, mais Hartenstein fait valoir le fait qu'il soit allemand partout. Hein. Donc je ne sais pas s'il sera sélectionné parce qu'effectivement, ils ont une équipe qui est très cadrée au départ, mais s'ils ont Hartenstein en plus, c'est un joueur, c'est un bon gros joueur quand même.
Parce que toi, une vraie équipe FIBA, quoi.
T'as pas l'air effrayé, mais ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, ils étaient trois niveaux au-dessus de la France, quand même.
Oui, bien sûr, largement.
On était trois niveaux en dessous de notre niveau habituel également.
Ouais, et puis tu vas récupérer des mecs. Il y a des mecs qui vont être plus en confiance. Il y a Victor Wembanyama qui va faire une différence folle. On va avoir une raquette assez incroyable pour stopper justement les pénétrations d'un Schröder. Bah, qu'il y aille quand il y a Gobert et Victor Wembanyama sur le terrain. Donc,
après ça, on nous le vendait déjà à l'époque comme quoi Gobert, il était impassable. Pour autant...
Oui, mais il n'y avait que lui comme énorme défenseur. Là, quand même, tu as deux des meilleurs contreurs de la NBA dans ton équipe. Il faut aussi un peu être fier de notre équipe. Hein.
Pour toi, Fred, est-ce qu'on est favori du match contre l'Allemagne ?
Oh, c'est dur à dire.
C'est dur à dire parce que les observateurs te diront ils sont champions du monde en titre. Mais si tu me demandes, moi, qui va gagner ce match, ça sera la France.
Ok.
J'ai pas de problème. Du visage que tu vas afficher sur ces Jeux Olympiques-là, on peut pas savoir à l'avance.
Ça dépend des blessures, il y a Bilal Koulibaly, on sait pas dans quel état de forme il sera, par exemple.
On a la chance qu'il se blesse maintenant, avec un temps de récupération qui sera pas si long que ça pour une blessure au poignet.
Exactement.
Qui va se blesser dans les mois à venir, les compétitions sont pas terminées, on peut pas savoir vraiment.
Mais en état, si tout le monde en forme, la France est au-dessus, normalement.
Donc la France est favorite pour toi.
Les
deux autres adversaires du groupe, il y en a un qu'on ne connaît pas encore, mais on peut imaginer quand même. Le Japon d'abord, puisque ça c'est certain. Que vaut le Japon ?
Ah, c'est pas mauvais.
Je t'ai posé une colle là.
Non, c'est pas mauvais.
Kylian, fais-nous un petit...
Il y a deux joueurs qui sont des joueurs NBA quand même.
Il y a Rui Hachimura.
Ouais, exactement.
Et Watanabe.
Et Watanabe qui sont des joueurs NBA, mais qui ne sont pas des joueurs majeurs.
Hachimura, c'est pas mal.
Hachimura, c'est pas mal. Watanabe, il a quand même disparu de la rotation quand même en NBA. Donc oui, c'est une équipe qui collectivement peut être intéressante. En fait, ils essaient de jouer comme les filles, c'est-à-dire courir beaucoup, shooter vite parce qu'ils ne sont pas très grands, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes capacités que les filles. Et je ne vois pas comment on pourrait perdre contre le Japon, vraiment.
Ça fait jamais des grosses perfs en compétition internationale hein, quand on regarde les dernières compétitions.
Même si sur les matchs amicaux, on a toujours eu du mal. Hein. Quand on a joué contre eux, on a toujours eu du mal parce que c'est des matchs amicaux, parce qu'on tente des choses, etc. Sur une vraie compétition FIBA, je ne vois pas comment on peut perdre.
C'est jamais une équipe qui va très loin. Toujours tour de classification 17-32 sur la dernière Coupe du Monde, par exemple, pareil en 2019, c'est pas une équipe qui va très loin dans les compétitions majeures.
Si on regarde le troisième adversaire, donc vainqueur du tournoi de qualification olympique de Riga, organisé par la Lettonie, donc avec la Géorgie, les Philippines, le Brésil, le Monténégro et le Cameroun. Est-ce que la Lettonie peut être challengée par le Brésil ou le Monténégro ? d'abord, pour commencer.
Sur le papier, oui, parce que c'est vrai qu'on a vu une équipe de Lettonie assez incroyable, mais c'est plus...
Qui nous a fait souffrir.
Qui nous a fait souffrir, qui nous a fait perdre, surtout. Et c'est vrai que c'est eux qui nous ont éliminés.
On est tombé de haut, quand même.
On est tombé très haut, parce qu'on pensait les battre, et effectivement.
Puis on se rappelle le petit Arthur Zargas, dont on ne parle plus depuis, parce qu'il
s'est blessé. Il a eu une très longue blessure, oui.
Mais qui nous avait fait beaucoup de mal, et qui avait fait un énorme tournoi à l'époque. Donc c'est une très belle équipe. Après, est-ce qu'ils sortiront de ce TQ, on ne sait pas pour l'instant, mais Davis Bertans, les frères Bertans, Roland Smith.
Beaucoup sur l'adresse à 3 points. Ils sont énormément sur l'adresse à 3 points. Donc si on défend un
et
petit peu dur.
On peut défendre extérieur.
Oui, parce que l'avantage, c'est que qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va défendre très fort sur l'extérieur en les poussant à aller dans la raquette. Et vas-y, va les marquer sur les monstres qu'on a à l'intérieur.
Mais qui va défendre côté français ?
Tout le monde peut défendre.
Alors déjà,
on peut faire le tour d'effectif si vous voulez. Hein,
Franck Ntilikina, moi je mise beaucoup sur lui, j'espère qu'il sera là.
Albici, c'est un énorme défenseur.
Ah, mais s'il y a Ntilikina, il n'y aura peut-être pas Albici. Et inversement, non ?
Non, bah,
c'est un peu le même profil, non ?
Ouais, mais t'as pas vraiment de meneur-scoreur dans cette équipe. Donc autant prendre deux défenseurs qui vont organiser le jeu.
Sylvain Francisco, qui lui défend pas trop, je crois. Non,
ouais, il a les cannes pour défendre, mais il le fait pas aussi bien.
Et Thomas Hurtel, toujours point d'interrogation, mais a priori,
il sera jamais
pareil.
Évidemment.
Donc, Isaiah Cordinier aussi.
Isaiah Cordinier qui peut être hyper intéressant, qui peut mettre beaucoup de pression. Nico Batum, Milan Koulibaly. On peut imaginer un 5 ultra défensif.
Il y a Bouzélé, ça peut être un très, beau, très gros défenseur également. À l'intérieur, s'il prend un Le Sor, c'est très fort en défense.
C'est très fort en défense, ça offre plein de solutions. Franchement, sur l'intérieur, je ne vois pas d'équipe qui puisse rivaliser avec nous. Vraiment.
Vu les intérieurs,
les États-Unis quand même.
Ben non.
Bah oui.
Alors déjà, Joel Embiid, est-ce qu'il sera là ? C'est pas sûr, oui, déjà. Et je suis désolé, mais
il a pas
mais
fait
le
tout ce foin pour dire à la dernière minute, bon, bah, j'y vais pas finalement.
Mais il est blessé.
Vu le groupe
blessé,
qu'on a, il va peut-être venir chez nous finalement.
Ouais, peut-être qu'il va dire non, mais finalement, les Français, c'est pas si mal.
Bon, donc, très confiant sur ce tirage au sort. Déjà.
Rassuré.
Ouais.
Ça pouvait pas être
par
mieux.
Rapport au tirage au sort, mais attention au visage qu'on va afficher. Et c'est peut-être un groupe qui peut être piège parce que sur le papier paraît plus simple et au final ça peut être une catastrophe au final.
Comme à la Coupe du Monde. Après, c'est sûr que si on a le niveau de la Coupe du Monde, de toute façon on n'a rien à
faire. Voilà, c'est même pas la peine de discuter. Là on imagine qu'on a retrouvé notre niveau, que les nouveaux arrivent en mettant cette intensité. Mais c'est vrai que si on a le niveau
qu'il va falloir retrouver quand même. On est bien d'accord. Hein,
parce oui, mais bien sûr.
On n'a pas de certitude.
Bien sûr. Non, on n'a pas de certitude. On a quand même Evan Fournier qui joue très peu, ou quand il joue.
Et puis, c'est toujours le problème de ces fenêtres internationales actuelles où on n'a aucune possibilité de faire une cohésion de groupe parce que les joueurs NBA ou Euroleague ne sont pas là et qu'on appelle des joueurs qui ne participeront jamais aux compétitions majeures.
Il y aura une préparation quand même relativement longue.
Le plus long possible, mais est-ce que ce sera très long ? C'est difficile à dire. Ils vont essayer que ce soit le plus long possible.
Alors, avant d'accueillir Boris Dion, on va dire un mot des autres groupes. Il y a ce groupe A, Canada, Australie, Espagne. On va dire Espagne, même si c'est un groupe qualificatif où il y a la Finlande.
On peut dire Espagne.
Espagne à la maison.
Oui, chez eux, à Valence.
Et Grèce ou Slovénie. Bon, déjà, c'est l'un ou l'autre. C'est soit Yanis, soit Luka.
Pas Luka.
Bon, là, ça va faire mal. Là, les matchs de poule vont être incroyables.
Ils vont être ultra intenses, mais aussi, ça te prépare pour ce qui arrive après. Hein. Quand tu joues ce genre de match, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant pour le Canada. Parce que normalement, le Canada, c'est l'équipe la plus forte de cette poule. Je pense qu'affronter des vrais adversaires d'entrée, ça te prépare au reste de la compétition. Donc attention aux Canadiens, vraiment.
Canada favori, enfin co-favori avec les États-Unis ou ça reste en dessous ?
Je suis un énorme fan.
Co-favori, voire. Ouais.
Le problème, c'est que les Avengers, mais... on les a jamais vus jouer. Hein. Oui, sur le papier, c'est fantastique, mais Avengers, on les a jamais vus jouer.
Et alors là, je vais risquer de dire une énorme connerie, mais attention, un peu d'âge quand même.
Un peu, bien sûr.
C'est-à-dire que ils sont toujours monstrueux, mais ce ne sera pas le meilleur LeBron, ce ne sera pas le meilleur Steph Curry, ce ne sera pas le meilleur Kevin Durant.
Ils vont jouer moins de 20 minutes de moyenne, ils ont quand même 20 minutes dans les cannes.
Ça reste monstrueux et ils sont tous encore très forts, bien entendu.
Sûr. Oui,
un Shai qui est lui peut-être au meilleur de sa carrière, peut-être qu'il va encore progresser, mais en tout cas qui est dans une dynamique exceptionnelle, il va rivaliser avec ces mecs-là.
Oui, lui, mais c'est vrai qu'en termes...
Autour,
c'est quand même un peu moins fort. Même si t'as un Jamal Murray qui peut arriver aussi pour les Canadiens.
Le 5 fait peur quand même, le 5 du Canada. Jamal Murray.
Jamal Murray, Lou Dort.
Olynyk.
Et le 4, j'arrive pas... le stopper de Houston.
Dylan Brooks.
Donc ça doit faire peur aux États-Unis, vous êtes sûr ?
Alors peur, je sais pas. Mais en fait, c'est le collectif qui va primer. Parce que mine de rien, ils ont du vécu maintenant. Parce qu'ils ont joué cette Coupe du Monde. Ils ont joué contre les États-Unis. Ils les ont battus.
Ils ont battu. Après,
c'était pas la même équipe. Hein. Concrètement, c'était loin d'être la même équipe.
Bon. Canada, donc, ok.
Co-favori.
Je suis un peu déçu, en fait.
Déçu d'eux.
Bah, je sais pas, là, vous m'avez fait un 5 qui m'a pas fait rêver. L'Australie.
Bah, c'est sûr que si on compare aux 5 de Team USA.
Non, mais parce que tu m'as dit que quasiment ils sont favoris. Non, là, je suis désolé, là. Ils sont pas favoris, là.
Parce que tu considères que l'Armada Team USA va rouler sur tout le monde.
Ils sont, bah oui, ils sont invincibles s'ils sont sérieux.
Alors, concrètement, offensivement, oui, ils sont invincibles. Sauf qu'on a vu cette équipe du Canada agresser défensivement, être super dure, super intense. Et dans ce genre de match FIBA, c'est très important.
Alors, Grèce ou Slovénie ?
Slovénie.
Slovénie plus fort ?
Yanis, sur le jeu FIBA, moi j'ai un vrai problème. Hein. Il lui faut de l'espace, il a besoin de... Il est très rectiligne, je sais que c'est ton joueur préféré par rapport à ça. Il est très rectiligne et il a besoin d'espace. C'est vrai qu'en NBA, il y a moins d'aide, donc tu peux aller directement vers le cercle. En jeu FIBA, c'est plus compliqué.
Il l'a montré sur les compétitions. Sa première compétition FIBA, c'était à...
Ouais, la première, mais après, depuis...
Non, mais c'était mieux, mais après, il a besoin de shooters autour de lui. Est-ce que les shooters sont au niveau aussi pour le seconder ?
Est-ce qu'il est pas bien entouré que Lucas aussi ?
Ah oui, mais oui.
La Slovénie, moi, je pense que...
Et puis, la Slovénie, il trouve toujours des solutions aussi, parce que ça joue bien, parce que ça se connaît, et ils ont toujours un Américain qui vient les aider. Ce sera Mike Toby, j'imagine, encore une fois.
Mike Toby, oui, je pense. J'imagine.
Attention quand même, parce que la Slovénie, nous, on se voit demi-finaliste. Mais est-ce que vraiment on est plus fort que la Slovénie ?
Nous voit demi-finaliste ?
On se voit, quand je dis on se voit, c'est-à-dire que le tournoi serait réussi si on était en demi-finale.
Ah oui, d'accord,
je pense.
Oui, c'est pas pareil.
On espère être médaillé quand même.
Non, mais si, honnêtement, avec cette équipe-là, si tu n'es pas demi-finaliste, c'est un fiasco.
Ouais, c'est raté.
À la maison, non, c'est pas normal.
Nous, on espère une médaille quand même, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'on est vraiment plus fort que la Slovénie ?
Oui.
Tu penses ?
Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas négliger le phénomène Wembanyama. Il ne faut vraiment pas négliger. C'est un joueur extraordinaire qui va nous aider de façon incroyable. En attaque, évidemment, parce qu'on aura besoin de points. Et on s'est rendu compte qu'avec Evan Fournier, ce n'était pas suffisant. Mais en défense, cette capacité à gêner tous les tirs, à contester tout ce qui se passe, prendre des rebonds, ça va être hyper important.
Tiens, on va écouter Carmelo Anthony qui a réalisé ce tirage au sort, qui est ambassadeur FIBA. Parler lui aussi avec des étoiles dans les yeux de Wembanyama.
Lots of excitement surrounding Wemby. I hope he plays.
Il y a beaucoup d'excitation autour de lui. J'espère qu'il jouera. J'adorerais le voir jouer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette opportunité d'être draftés et de disputer des Jeux Olympiques chez soi la même année. J'aime ce qu'il fait. J'aime son approche du jeu, son niveau. Il est agressif. Il est dans le meilleur environnement pour progresser avec Coach Pop. C'est le seul qui peut mettre en place un plan autour de Wemby pour l'emmener loin. On n'a jamais vu un joueur comme ça. Il n'a que 20 ans. Je n'ai jamais vu ça.
On n'a jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Tout ça, c'est des beaux discours, c'est vrai. Non, mais les Ricains, on les connaît.
Non, justement, tu ne les connais pas. Si tu connaissais les Ricains, tu dirais, c'est un Français, ça les fait chier de dire ça. S'il n'était vraiment pas aussi bon, il ne le dirait pas. Il serait en train de dire, bah, c'est pas terrible. Tu ne te rappelles pas Luka Doncic au début ?
Comme le Shaq avec Rudy Gobert.
Comme le Shaq avec Rudy Gobert, comme Charles Barkley avec Luka Doncic. Les mecs n'aiment pas les Européens, ils ne les considèrent pas. Quand ils voient un phénomène comme ça, ils sont juste obligés de reconnaître la vérité, c'est tout.
Après, il n'y aura pas de souci évidemment sur le basket FIBA, puisqu'il a quand même sa saison à Boulogne-le-Valois, puis il est élevé au basket européen.
Il a de l'expérience Euroleague, etc. Donc,
question simple.
Euroleague, pas énormément.
Non, mais il a évolué dans un groupe Euroleague.
Mais je ne présume pas de la réponse, Fred. Est-ce que Wembanyama, face aux joueurs américains et canadiens, en basket FIBA, c'est différent dans NBA, de la NBA. Est-ce qu'il aura un impact différent sur des Curry, LeBron ou Shai en FIBA et qu'en NBA ?
Alors déjà, le terrain est plus petit. Donc il va pouvoir contester encore plus parce qu'il est quand même capable d'aller contester les shoots à 3 points, Wembanyama. En FIBA, ça va être encore plus simple pour lui parce que la ligne est plus proche, parce que le terrain est plus petit. Donc il va pouvoir avoir cet impact encore plus important. Et offensivement, ils ne sont pas très habitués à faire des prises à deux quand même, les Américains. Et donc, si tu vas pas en prise à deux, il va pouvoir jouer. Effectivement, je reviens sur le terrain. Si le terrain étant un peu plus petit, c'est compliqué parfois pour lui d'attaquer. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc,
et puis, il sera davantage aidé aussi par le reste de son équipe qui va venir en aide par rapport à un Team USA qui va pas savoir exactement comment défendre. Même s'il ramène toute l'armada, réussir à défendre FIBA avec une telle armada, venir en aide, faire les efforts, etc., c'est compliqué dans un basket FIBA.
Surtout qu'il a progressé. Il a énormément progressé sur la passe. Donc c'est-à-dire que maintenant, il est capable, quand il voit la prise à deux arriver, quand il voit un partenaire libre, de faire la bonne passe au bon moment. Et ça change tout aussi sur un jeu FIBA.
Carmelo Anthony sur la difficulté justement du basket FIBA pour les Américains.
If it's your first time, if it's your first experience, yes, it's a very different style of game.
Quand c'est la première fois, oui, c'est une manière vraiment différente de jouer, d'appréhender la rencontre mentalement. C'est vraiment difficile de marquer dans une compétition FIBA. Il faut vraiment s'adapter. J'avais la chance de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde, donc tout paraissait plus simple. Je pouvais faire ce que j'avais à faire plus facilement.
Est-ce que vraiment les Américains sont encore impactés par les règles FIBA ?
Oui, parce que toute l'année, ils jouent sur des règles NBA qui ne sont pas du tout les mêmes.
Parce que Kevin Durant, ça doit être sa quatrième ou cinquième.
Oui,
c'est ça l'avantage qu'ils ont, c'est l'expérience d'avoir déjà fait énormément de compétitions de FIBA. Malheureusement pour eux, ils ont l'habitude de jouer en NBA 90 matchs, voire plus par saison. Pour ceux qui vont en play-off, donc ils sont habitués à ces règles-là, à ce terrain-là, à cette habitude-là de jouer à leur manière. Et le fait de débarquer en Europe face à des équipes qui ont un basket totalement différent, c'est toujours extrêmement perturbant sur le terrain.
Surtout qu'ils vont proposer des zones, ils vont proposer des choses différentes, les équipes FIBA, pour justement pas prendre de rousse. Oui. Et donc il va falloir s'adapter, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir... Alors oui, ça a progressé au niveau des zones, etc., mais ce n'est pas suffisant encore.
Un dernier mot avant d'accueillir Boris, c'est de reparler du groupe de la France, c'est la Serbie. La Serbie qui a fait une excellente Coupe du Monde sans Jokic. Et je me souviens à l'époque de commentaires dans Basket Time, le podcast de référence, n'est-ce pas ? Vous nous disiez qu'on ne sait pas ce que ça va donner avec Jokic, que ça ne va peut-être pas être si évident que ça de l'intégrer à ce collectif qui était parfait.
Bah pareil, de la même façon. Alors déjà pour deux raisons. Le jeu FIBA, parce que même si Jokic a été biberonné à ça, il joue en NBA depuis quelques temps, donc il faut qu'il se réadapte. Il a besoin de beaucoup d'espace, lui aussi, pour faire jouer les autres. Et Milutinov a fait du bon taf à la Coupe du Monde. Clairement, il a fait du bon taf. Il a fait un peu du Jokic, mais à la mode européenne. Donc oui, chacun avait pris des responsabilités plus importantes dans cette équipe. Et quand Jokic arrive, il va falloir les diminuer un petit peu.
Après, Jokic, ça reste quand même l'un des joueurs au style européen le plus fort de la NBA.
Donc. Oui, mais il a l'habitude de jouer soit des 1 contre 1, soit directement des prises à deux, parce qu'ils ont du mal à défendre sur lui.
C'est quand même un facilitateur de jeu exceptionnel.
Il y a moins d'espace, je vous répète.
Un style de jeu européen. Oui, d'accord.
Mais sa dernière compétition, elle n'a pas été extraordinaire. Il n'a pas été aussi flamboyant que d'habitude, je demande à voir.
On accueille Boris Diot tout de suite pour continuer sur ce tirage au sort de l'équipe de France au tournoi olympique cet été. Salut Boris.
Salut les gars.
Salut.
Le manager de l'équipe de France doit être peinard là, tranquille, en train de savourer ce tirage au sort. On était en train de dire qu'on s'en sort très très bien, Boris, quand même.
Après, il n'y a pas de poule facile non plus, il ne faut pas exagérer.
Donc tu es en train de commencer à faire de la politique. Directement, tu fais de la politique, Boris.
Mais on joue quand même le champion du monde en titre, les gars.
Oui, d'accord, mais c'est la poule la plus facile pour être au pire meilleur deuxième.
J'ai essayé de leur dire, mais Fred m'a assuré qu'avec Wembanyama, on est favori.
De cette poule, hein, pas du championnat.
Il y avait une question.
Non, qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais parce que c'est vrai que l'Allemagne a fait une Coupe du Monde fantastique. L'Allemagne, on disait tout à l'heure, c'est un groupe très homogène, beaucoup de bons joueurs, un collectif qui marche. Est-ce que tu estimes que la France est favorite de cette poule ?
Non, je ne pense pas que la France est favorite de cette poule. Je pense que c'est toujours l'Allemagne qui est favorite de cette poule. Et tout simplement par tout ce qu'elle a fait aussi sur ces dernières années. Et c'est une équipe qui montait en puissance, une équipe qui a la croisé vraiment des chemins d'une équipe qui est à la fois de fort jeune, qui a de l'expérience et qui a continué à progresser année après année. Et ils sont meilleurs de leur basket et ils l'ont montré l'été dernier. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils seraient moins bons l'été qui arrive.
Bon, alors après, quand tu compares à la poule A, Canada-Australie, vainqueur du TQO Espagne, vainqueur du TQO Grèce, on est quand même pas mal servi, Boris, avec le Japon et le vainqueur du TQO Lettonie.
Ouais, il y a une chose qu'on savait, c'est que en fonction des TQO, c'est toujours compliqué parce que tu as les fortes équipes européennes du coup qui peuvent rentrer dans la compétition. Donc tu es un peu à l'aveugle par rapport à ces équipes-là, mais tu sais que c'est des équipes qui sont fortes, et en tout cas qui sont fortes dans le ranking. On le voit, hein, puisque les équipes qui font le TQO sont plus dans le ranking que certaines équipes, que beaucoup d'équipes qui sont qualifiées. Déjà, donc par rapport au pot, c'est aussi ça qui fait la différence. Donc c'est sûr qu'ils ont un groupe plus homogène.
Alors après, il y a un truc qui va être quand même qui va pimenter ces phases de poule, c'est que la première place est déterminante. Bon, bien sûr, on peut aussi être meilleur deuxième, hein, mais le match face à l'Allemagne directement, ça va être pas un match éliminatoire, mais pas loin quand même, hein, Boris.
C'est ça, c'est un peu comme on a vu sur les dernières compétitions, où les premiers matchs peuvent être très déterminants à la suite de la compétition, ou en tout cas mettre une énorme pression sur les matchs qui suivent. Et ensuite, il y a encore une nouvelle particularité, c'est que maintenant, il y a non seulement les premiers de poule, mais aussi les deux meilleurs premiers des trois poules, et puis les meilleurs deuxièmes et les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Donc ça, c'est les choses qui sont difficiles à appréhender avant une compétition, parce que ben, en fonction de la poule où on est, des matchs, des points, des quarts, etc., savoir qui va être meilleur premier de sa poule, c'est compliqué à voir.
Et alors, un mot du dernier adversaire, entre guillemets, qui pourrait être la Lettonie, évidemment, c'est pas certain, hein, parce qu'il faut quand même se débarrasser du Brésil. Monténégro, on a dit a priori, hein, Fred.
Normalement, la Lettonie est un petit peu au-dessus. Ouais.
En imaginant la Lettonie qui nous a fait souffrir à la Coupe du Monde, qui nous a battus, on était un peu choqués par cette défaite. Quelques mois après, Boris, qu'est-ce qui reste de ce moment ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'était une défaite logique, que c'est les Bleus qui ont fait n'importe quoi? Enfin, quelle est aujourd'hui ta position face à un adversaire comme la Lettonie, qui était une des surprises de la dernière Coupe du Monde?
Moi, je pense qu'on s'est assez penché sur le sujet et sur le débriefing de ce qui s'était passé. Bien sûr que je n'irai pas à dire que c'était une défaite logique et que c'est une équipe qu'on aurait dû battre à la Coupe du Monde. Par contre, c'est sûr que c'est une équipe quand même qui joue bien au basket et qui est forte. Et on l'a vu après, même notre match, même si ça nous a fait très bizarre de perdre ce match-là, elle est aussi allée battre l'équipe de l'Espagne qui a eu le même tarif, si je peux dire, contre la Lettonie. Donc c'est une équipe qui joue bien, pareil, qui depuis plusieurs années joue de mieux en mieux, qui joue bien ensemble, des joueurs qui se connaissent. Et encore, il leur manquait Porzingis, qui est sûrement leur meilleur joueur.
Par rapport à, tu parlais de l'Allemagne qui intègre bien ses jeunes, qui a fait tout un processus d'intégration. Nous aussi, on a des jeunes qui arrivent, qui sont très très forts. C'est quoi vos ambitions par rapport à l'intégration de ces jeunes, justement? Alors, Victor Wembanyama, évidemment, on sait, mais par rapport aux autres jeunes, Koulibaly par exemple, d'autres joueurs, mm-hmm. et aussi sur le poste de meneur.
Voilà, Koulibaly, avec les news qui viennent d'arriver, et donc sa blessure hier, c'est sûr que c'est un problème, en tout cas au niveau de l'intégration, le fait qu'il soit blessé. Alors on ne sait pas encore exactement la gravité de cette blessure.
C'est quoi les premiers échos ?
Compliqué. J'ai les mêmes que vous. Hein.
Il n'y a rien de neuf.
Fracture du poignet, c'est ça ?
Fracture du poignet, fin de saison, donc...
Mais fin de saison, ça veut dire fin de saison NBA, donc nous on ne sait pas trop quand est-ce que la France pourra compter sur lui.
Je ne suis pas docteur et je ne suis pas allé voir ses radios, il s'est fait ça hier. Laisse-lui un peu le temps, s'il te plaît. Donc ça, on ne sait pas. Par contre, par rapport à ce que tu parles et au processus d'intégration, en fait, l'Allemagne est dans une phase qui est un petit peu différente parce que ça a commencé il y a quelques années. Nous, c'est les jeunes qui sont plus jeunes que les jeunes qui sont aujourd'hui en Allemagne. Les jeunes qui sont aujourd'hui en Allemagne ont quelques années de plus que nos jeunes. Et donc ont eu le temps, si tu veux, de s'intégrer ces dernières années. Donc, bien sûr, ça va être la même chose et c'est toujours de toute façon la même chose à chaque fois qu'il y a des générations qui se croisent, de nouvelles générations qui arrivent, de nouveaux talents qui arrivent. Ça s'est toujours fait, ça s'était fait à notre époque, Fred, et ça se fera aussi dans le futur.
Alors Boris, si on parle des cas particuliers, donc Bilal, on va attendre évidemment pour en savoir plus. Il y a d'autres cas particuliers, il y a Evan Fournier
qui... Mais on ne va pas parler des cas particuliers.
Bien sûr qu'on va en parler.
Mais tous les cas sont des cas particuliers en fait.
Bien sûr, mais je ne vais pas te faire la sélection aujourd'hui.
Non, tu ne vas pas nous faire la sélection. Mais déjà, voir Evan rejouer avec Détroit, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même.
Ben c'est une bonne nouvelle que les joueurs jouent, on l'a toujours dit, on ne l'a jamais caché, mais c'est pour ça. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. La nouveauté, c'est bien sûr qu'il ait réussi à intégrer un club auquel il a des minutes, mais pour tous les joueurs du groupe France au sens large, on espérait qu'ils jouent, qu'ils aient des minutes et qu'ils soient dans des clubs où ils puissent s'épanouir, parce que c'est bon pour eux et c'est bon pour le groupe France. Donc, bien sûr que c'est ce qu'on aimerait.
Ben justement, nous, on a une inquiétude, et je pense que vous avez tous la même, c'est le poste de meneur. On a des joueurs de très grande qualité qui ne jouent pas. C'est quid du meneur ? Est-ce qu'il va y avoir un revirement ? Est-ce que Hortel va repointer son nez ? Est-ce qu'il va y avoir un revirement ? Est-ce qu'on va prendre des joueurs qui finalement ne jouent plus, comme un Frank Ntilikina ? C'est quoi le projet par rapport à ce poste qui forcément nous inquiète ? Parce que sur les autres postes, on est plutôt assez serein quand même.
C'est ce que je te dis, on ne va pas le faire maintenant. On a encore quelques mois pour commencer à parler de la sélection et de comment va être construite l'équipe de France. Et aujourd'hui, on était là pour le tirage et pour voir quels allaient être les différents groupes et ce qui nous attend.
Et alors, juste pour revenir sur le tirage, du coup, puisque tu ne veux pas parler des cas particuliers, est-ce que tu as eu déjà Vincent Collet en ligne. Est-ce que tu sais comment il a réagi, lui, à ce tirage?
Oui, je l'ai eu rapidement, là, juste après.
Content
pendant 2 minutes. C'est de la même façon que moi, pas content, pas mécontent. C'est pas, ça y est, c'est bon.
Prudent,
gars,
quoi.
On est qualifié, ben, bien sûr. Ça va
pourtant,
être,
on a entendu une bouteille de champagne péter, on pensait que c'est ça, nous.
Non.
Non, nous, on accueille ce tirage quand même comme un bon tirage, hein, Boris, on va pas se mentir. Hein.
Ouais, il y a des tirages qui auraient pu être pires et des équipes qu'on aurait pu prendre, notamment dans les autres pots aussi. Parce que dans le pot numéro 2, tu peux tomber sur la Serbie qui est que dans le deuxième pot et qui est aussi une des plus fortes équipes aujourd'hui. Donc, bien entendu.
Un mot de Wembanyama quand même, Boris. On a entendu Carmelo avant le tirage qui ne tarissait pas d'éloges envers lui. Est-ce qu'on peut vraiment croire à un effet Wemby ou alors est-ce que toutes ces éloges, ça peut aussi avoir un effet inverse sur les épaules d'un aussi jeune joueur, aussi bon soit-il?
Bon, l'effet inverse, pour l'instant, je pense qu'il a su montrer que, en tout cas sur les 3 dernières années, les différentes montées de pression médiatique, de pression extérieure qu'il a pu recevoir, il a toujours très bien géré ça. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, du jour au lendemain, il arrêterait de bien gérer ce genre d'émotion. Après, un effet Wemby, on connaît bien entendu et on voit les qualités de ce qu'il sait faire sur le terrain. Et donc, il aura forcément un impact sur l'équipe de France.
On le voit, il joue énormément poste 5 en NBA. Est-ce qu'on peut l'imaginer décaler poste 4 avec un Rudy Gobert poste 5? Et quel conseil tu donnerais, toi qui as joué poste 4 dans ta carrière, à un joueur comme Wembanyama pour peut-être évoluer à ce poste-là dans une compétition aux côtés de Rudy Gobert?
On peut tout imaginer. De toute façon, je pense que la porte est fermée à rien du tout. Il y a des adaptations à faire, il y a des contextes qui sont faits pour. Donc, c'est dans ce contexte-là où il joue numéro 5 à San Antonio, dans un contexte avec l'équipe de France, et ça dépend. Ça dépend avec qui tu es sur le terrain, ça dépend à quel moment, ça dépend combien de temps tu joues. Je pense que tout est envisageable. Après, pour ce qui est des conseils à lui donner, il a déjà un meilleur niveau que j'avais au plus haut de ma carrière, alors qu'il a 19 ans. Donc, je n'ai pas de conseils particuliers à lui donner.
Boris, merci beaucoup. On rappelle le tirage au sort d'équipe de France. Donc, ça sera Allemagne-Japon et le vainqueur du TQO de Lettonie. Boris, merci. Et on va enchaîner avec les filles maintenant, parce que les filles, là, c'est une autre paire de manches. Le tirage n'est pas facile. Hein.
Allez, avec Alix Duchesne, 10 millième. Le ballon pour Gabriel Williams. Pas de 5 secondes. La faute tout de suite. Non, elle n'est pas sifflée, la faute. Elle n'est pas sifflée, la faute. Elles y sont. C'est gagné. Elles sont dans le dernier carré pour la 3e fois de suite après Londres 2012, Rio 2016. Et oh, quel panier!
Exceptionnel, ouais, passage!
Magnifique, Marine Fautou!
5 points!
Dans la planche, le layback! La passe décisive, oh, quelle passe pour Alexia Chartereau, elle mérite d'être convertie! Oh, ouais, c'est magnifique!
Et alors,
oh, la Marine Jeunesse à 3 points! Marine à 3 points! Allez, Marine Jeunesse, le tir à 3 points pour terminer, mais oui, 91-76, la victoire, la médaille de bronze pour l'équipe de France féminine.
Bravo,
et on a un grand
bravo,
sourire. On a la fierté des hommes, on a la fierté des femmes avec le sourire. Bravo, merci mesdames.
Alors, le tirage des poules olympiques, pardon, pour l'équipe de France féminine, c'est pas un cadeau. La France dans le groupe B avec l'Australie, le Canada et le Nigeria. Je vous donne les autres poules avant d'accueillir Céline Dumère. Le groupe A, donc, avec la Chine, l'Espagne, la Serbie et Porto Rico. Et le groupe C avec les États-Unis, la Belgique, le Japon et l'Allemagne. Alors, cela dit, quand on a vu États-Unis, Belgique, Fred, on s'est dit, bon, autant éviter.
On était bien contents de les éviter, ouais, c'est cela. Parce que pour terminer meilleur deuxième avec Belgique et États-Unis dans le groupe, c'est pas évident.
Céline Dumerc en direct, là encore, dans Basket Time pour réagir et tout nous expliquer de ce tirage au sort. Salut Céline.
Salut.
Alors, Boris a fait le modeste là en disant oui, tous les tirages sont difficiles.
Est-ce que là, il n'y a pas de modestie à avoir.
Je servir la même chose. Non, c'est pas facile sur le papier. Hein.
Oui, mais c'est. Est-ce qu'on s'attendait à quelque chose de facile? Quel non. aurait été le. Voilà, donc à un moment donné, c'est ça aussi, c'est la beauté des Jeux Olympiques, la beauté du basket mondial depuis quelques temps, c'est que le niveau se resserre et qu'il n'y a pas de petites équipes, quoi. Donc effectivement, sincèrement, entre le groupe A qui semble un peu plus facile, on va dire, mais le groupe C, sincèrement, il n'est pas mieux que le nôtre. Donc Est-ce qu'on est on est dans une poule de Jeux Olympiques.
Hein. Alors comment tu places la France là, si tu devais faire la hiérarchie de ce groupe avec Australie, Canada, Nigeria, on se situe comment nous?
Alors, il faut gagner le Nigeria. Après, on verra. Il faudra gagner certainement un match de plus pour se sortir de la poule. Mais c'est très difficile de se projeter. Quand on voit, au vu de la dernière Coupe du Monde, les Australiennes, les Canadiennes étaient devant nous. C'est des nations qui continuent à avancer. Alors, l'Australie a toujours été dans les top teams mondiales. Le Canada, avec l'arrivée d'un coach espagnol, forcément, ils étaient un petit peu en manque de médailles et ils ont été chercher un coach étranger avec le coach espagnol, donc certainement pour essayer d'aller chercher une des premières médailles olympiques. Donc c'est pas des petits morceaux quoi. Maintenant, ce qu'on a fait nous au TQO en Chine, on a montré un joli visage, on a montré de belles choses. Donc si on arrive à continuer à s'améliorer, parce que c'était pas parfait et puis les adversaires étaient peut-être un peu plus faibles, donc il faut continuer dans cette idée là et continuer nous à avancer, parce qu'on sait que de toute manière, si on veut se qualifier, au-delà de gagner absolument le Nigeria qui paraît être l'équipe la plus faible, il faudra essayer de se sécuriser en essayant d'en gagner un deuxième, quoi. Donc ça va pas être simple.
Moi, Céline, j'ai une question. Justement, tu parlais du TQO. Vous avez été extraordinaire. Vous jouez contre la Chine. Vous jouez quand même très, très bien contre la Chine. Est-ce que vous avez changé de statut, de standing à cause de ce TQO? Ou pour toi, c'était juste un TQO et on verra ce qui se passe pendant les Jeux Olympiques?
J'ai envie de te dire qu'on n'a pas changé de standing parce qu'on est resté 7e au ranking mondial.
Oui, non, mais ce que je veux dire, ce qu'on a pu constater quand même, c'est qu'on avait bien joué. Quoi.
Le standing, c'est les autres qui nous le donnent. Nous, on n'a pas changé dans nos têtes les objectifs que l'on a envie d'atteindre. Avant ce TQO ou après ce TQO, on a la même volonté de faire quelque chose de bien. Donc, c'est sûr que c'était mieux, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'était mieux de performer comme ça pendant le TQO en Chine. On a montré de belles choses, on a travaillé dans un temps très très court. Avec le retour de Marine et de Gabi, ça nous a amené dans une autre dimension, notamment offensive. On a vu des choses qui se sont plutôt très bien déroulées. Maintenant, c'était quand même des équipes un peu plus faibles et la Chine n'était pas au niveau qu'elle avait eu le mois précédemment, quoi.
Et tu me parles de Gabi Williams et de Marine Johannes. On s'est posé des questions quand même. Donc on sait qu'il y a une polémique et je ne veux pas revenir sur la polémique, mais je veux juste savoir, est-ce que cette hache de guerre a été enterrée enfin? Est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce que maintenant tout le monde tire vers le même chemin, mais a les mêmes envies? Parce que concrètement, nous c'est notre inquiétude.
Non, mais je coupe tout de suite. Il n'y a jamais eu de hache, il n'y a jamais eu de guerre. Ça, c'est
ah
c'est
bah, il y a eu un problème, du moins.
Il y a eu quelques problèmes au moins de communication, pour le moins de communication.
Voilà, alors, pardon, parce que avoir un problème de communication, tout de suite, c'est la guerre.
C'est pas très grave de parler de guerre ou pas de guerre, mais il y a quand même une énorme déception de la part des fans de l'équipe de France que Marine n'ait pas pu faire la compète parce qu'elle est allée signer son contrat. C'est une réalité. Après, quelles en sont les conséquences? C'est la question un peu de Fred.
Il n'y en a pas, elle était là. Sujet clos, à un moment donné, vous l'avez entendu, je pense que c'est... s'exprimer sur ce sujet. Nous aussi, on a dit maintenant, on arrête d'en parler. Enfin, si vous voulez parler du passé, on peut revenir en arrière. Mais voilà, nous, ce qui a compté, c'est ce qui était devant et on l'a fait. Ça s'est très bien passé en Chine avec ce TQO. Et on a hâte de voir les prochaines séances. Quoi. Donc maintenant, il faut arrêter de toujours essayer de remuer quelque chose qui... Voilà, ça fait partie d'une vie en équipe nationale, c'est comme ça. Il y a des moments, on le voit avec l'équipe, les garçons, il y a des compétitions qui sont un petit peu moins réussies. C'est pas pour autant qu'il faut les enterrer et que la prochaine compétition ils seront morts. Donc là c'est pareil, il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière. On a fait quand même une compétition avec une médaille aussi au championnat d'Europe. Maintenant on a fait un TQO avec le retour notamment de Marine et de Gabi, mais la préparation va être longue et on espère qu'on aura vraiment tout le monde en pleine possession de leurs moyens pour essayer de se sortir de ce groupe B qui sera pas simple.
Alors Céline, on va préciser les objectifs parce que tu as dit tout à l'heure, on sait où on va aller, on sait ce qu'on veut, on connaît nos objectifs, mais quels sont les objectifs? Quand on t'entend, on a l'impression que c'est sortir de la poule. Est-ce qu'une médaille fait partie de vos objectifs ou est-ce qu'on en est trop loin?
Alors, c'est pas, je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question, dans le sens où moi, les objectifs, oui, mon objectif, c'est gagner le match numéro 1, mm-hmm. après de gagner le match numéro 2, après de gagner le match numéro 3.
Oui, mais voilà. Si tu veux, les garçons, donné, on sait que l'objectif, c'est d'être sur le podium. Est-ce que les filles partagent ça, ou est-ce qu'on est trop loin de ces ambitions-là?
Honnêtement, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça, parce que moi, ce n'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'appréhender cette compétition. Mais poser la question peut-être aux filles, elles vous répondront quelque
leur
chose posera, d'autre.
On leur posera, bien sûr.
Voilà, à un moment donné, voilà, moi, je ne suis pas dans l'idée de se donner un objectif. On a eu la chance voilà, aujourd'hui d'assister à ce tirage au sort. On sait qui c'est qu'on va rencontrer, on sait à quelle sauce on va être mangé. On sait le travail qui nous attend. Honnêtement, si on arrive à continuer à travailler, à progresser dans le même sens, on pourra faire de belles choses parce qu'on l'a montré et notamment il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 semaines. Quoi.
Justement, même question que pour Boris avec Vincent. Est-ce que vous avez pu échanger avec Jean-Émile Toupane? Quelle a été sa réaction, sa première réaction après ce tirage au sort?
Ben, un peu la même. Hein. Voilà, c'est ni facile ni impossible. Les poules sont toutes quand même assez denses. Je dirais que la nôtre est quand même la nôtre est quand même un peu plus dense, mais bon, voilà, il va falloir sortir, voilà, se retrousser les manches et travailler fort pour essayer de proposer un bon basket qui fera déjouer les adversaires.
Après, on sera quand même poussé par d'autres publics, hein, garçons comme filles. C'est quand même un vrai atout sur un tournoi olympique. Bon, c'est très dense parce qu'il n'y a que 12 qualifiés.
J'ai juste une petite question justement par rapport au public. La première phase se déroule à Lille. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Parce que c'est quand même les JO de Paris et finalement c'est à Lille. Qu'est-ce que tu penses de la situation géographique?
J'ai pas d'avis. C'est comme ça. Ça a été décidé. Voilà, à un moment donné, on peut pas aller. Ça sert à rien de dire oh là là, c'est nul, oh là là, c'est bien. Enfin non, c'est comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que je vois la chose. Au contraire, je me dis que on va avoir une chance de jouer dans une salle qui va être incroyable, que les gens vont venir à Lille pour voir du basket. Et que
on aime le basket et le basket féminin à Lille en plus. Enfin,
exactement. Villeneuve-d'Ascq qui va faire un final fort d'Euroleague, donc on va être, j'espère, bien reçu. Et moi, c'est ça qui m'importe, c'est que ça va être un chouette moment avec un public dans une salle dont je n'ai pas eu l'occasion de voir dans cette configuration, mais qui, je suis sûr, sera rempli de nos supporters français.
Merci Céline.
Merci.
Et puis
merci.
Maintenant, il y a du boulot, hein. Faut préparer
il va falloir préparer tout
le tournoi olympique. Merci encore à Céline Dumerc et à Boris Diaw pour les réactions à ce tirage au sort. Pour finir sur les filles, Fred, les États-Unis, toujours intouchables.
C'est
une autre dimension chez les garçons. Hein.
Oui, il y a une domination, ultra-domination même. Après, il y a des bonnes équipes, hein, effectivement. Mais j'ai envie de voir la Belgique, ce que ça donne. Ça joue bien aussi au basket, la Belgique.
Qui sont les autres grosses nations? On a parlé de la Belgique, toujours.
La Belgique, oui, championne d'Europe en titre. Si elle retrouve leur niveau, oui, c'est une équipe qui peut être hyper intéressante avec des grandes, des vraies grandes qui jouent très bien près du cercle. Donc oui, Chine, très très fort aussi. Moi, j'aime beaucoup le Canada, j'aime beaucoup l'Australie. Il y a quand même des équipes. Les Serbes, on ne sait jamais, parce que les Serbes, oui, elles ont raté leur dernière compétition, mais c'est quand même
l'Espagne
une équipe qui est sérieuse, l'Espagne, pareil. Voilà. Donc
vous avez compris comme moi que l'équipe de France n'a pas une ambition démesurée dans ce tournoi olympique.
À partir du moment où
je sais pas, parce que je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question.
Non, mais à partir du moment où Céline a dit on va battre le Nigeria et après on verra. Ah, c'est que tu te rends compte que l'ambition, c'est déjà essayer de sortir de la poule.
Après, moi, je dis ça, c'est pas du tout une critique.
Ça peut être une ambition.
Être objectif et te dire que la France a sa place en quart et que plus loin, ça va être du compliqué. Hein.
Pas
de problème. Hein.
C'est assez objectif, je pense. Hein. Je pense que ça va être très compliqué. Elle a raison, la dernière Coupe du Monde, on a montré des choses. On a montré qu'on pouvait essayer de se battre, mais que pour l'instant, on était un peu juste quand même.
Après, avec un bac court en feu, est-ce qu'on peut pas imaginer faire des exploits à Gabby Williams et Marine Johannes?
Elles y vont pour ça. Parce que justement, elles ont envie de montrer des choses, elles ont envie de dire que quand elles sont pas là, c'est pas pareil, c'est pas la même équipe de France. Sauf que en face, c'est sérieux quand même. C'est très sérieux.
Après, on a un groupe qui est quand même formé.
Non, mais t'as une très bonne équipe.
À travailler ensemble avec des éléments supplémentaires comme Marine Johannes et Gabby Williams, ça peut performer. Jusqu'où
Ouais, mais tu finis troisième de ta poule, t'es pas bien. Hein. tu peux croiser avec des grosses, grosses cylindrées quand même.
On est d'accord.
De toute façon, on ne parle même pas de battre les États-Unis, mais oui, si tu sors, c'est le même système que
les garçons. C'est, hein, c'est exactement le même système.
Des têtes de série.
Sauf que les têtes de série sont un peu encore plus disséminées. Il y a vraiment des très fortes équipes partout.
Tu auras peut-être une équipe que la France peut taper quand même en quart, on ne sait pas. Non? Il rigole.
Non, je sais pas. Oui. Sur un match, on sait jamais, parce qu'encore une fois, il y a vraiment du talent. Cette
la marge de progression est importante quand même pour les Bleus.
Oui, mais je me répète, hein, mais il y a des équipes très très fortes en filles. Hein.
Oui, mais il y a énormément de progression ces derniers mois par rapport à ce qu'on a vu aussi précédemment, les débuts
chez
de
les autres, tu veux dire.
Non, mais même les débuts de Jean-Aimé Toupane, c'était très compliqué. Et là, on voit ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il y a quand même une alchimie qui est en train de se créer, notamment avec le retour de Marine Johannes.
Il apprend mieux le basket féminin déjà aussi.
Oui. Ah,
c'est très important, ça. C'est un basket qui est un peu différent, donc il faut l'appréhender. Là, il l'appréhende mieux. Je pense qu'avec les joueuses, il y a une osmose qui se crée.
L'apaisement autour de tout ce groupe France féminin qui a longtemps empathie de tout ce qui s'est passé.
Oui, mais il ne faut pas parler du passé.
Allez, on va terminer avec une petite projection, un petit pronostic au vu des tirages au sort. Je ne sais pas si ça change tout fondamentalement, mais un petit pronostic sur le tournoi garçons et filles, Fred. Vainqueur et la France.
Vainqueur, alors moi je veux une finale Team USA Canada, j'ai du mal à juger parce que je demande à voir, sur le papier c'est extraordinaire Team USA, mais ils jouent pas ensemble beaucoup et ils sont vieillissants, donc finale les deux là, et je pense qu'une demi-finale, et tu te bats pour une médaille de bronze qui sera une très belle médaille
avec
dans
une contexte des meilleures équipes européennes, voilà, que ce soit Serbie, Slovénie ou...
Tu peux les regarder les yeux dans les yeux,
ou après, même, hein,
oui bien sûr, mais ces équipes là tu peux les regarder dans les yeux dans les yeux vraiment.
Et chez les filles?
Chez les filles, Team USA.
États-Unis,
il n'y a pas de débat.
Australie. Je pense que le Japon a marqué un peu le pas parce que le coach du Japon fille est passé coach du Japon garçon. Donc il y a moins ce petit truc.
Parce qu'elle jouait extrêmement bien à Tokyo. Hein.
Oui, parce que c'était le coach qui est devenu le coach des garçons maintenant. Donc j'ai envie de dire que eux, ça serait un tour en dessous. Il y a trop d'équipes, Canada, et Australie, la France, quart.
Quart, ouais.
Kylian, pareil, quart pour les filles.
Pour les filles, avec Team USA. Ouais.
Et pour les garçons.
Évidemment couronné. Pour les garçons, je vais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais dire Canada, couronné. Et je vais être un peu plus pessimiste pour la France et je vais dire simplement quart.
Ah ouais.
Malheureusement.
Ah ouais. C'est dur.
C'est dur, mais je ne sais pas quelle tête va afficher cette équipe
mais
de France.
Donc Victor va arriver et régler tout ça.
Exactement.
Est-ce qu'il va régler tout ça? C'est ça le problème.
Il va régler toi déjà.
Il va régler quelques problèmes.
Il va régler beaucoup de problèmes. Pas tous, mais beaucoup.
Et puis, on trouvera bien un meneur et un arrière, un shooter efficace.
Tu veux pas y aller en meneur?
Non, alors moi ça servirait vraiment.
Sinon, on a un poste 4 shooter, mais qui est en retraite et qui fait avec nous.
Je crois beaucoup en Evan Fournier. Moi, je pense qu'il n'a pas besoin de beaucoup.
Moi, je suis persuadé aussi.
Au jeu, il va tout arracher.
Et au contraire, il a ce caractère de je ne joue pas beaucoup, je vais montrer des choses et il va être très bon. En plus, libéré par Victor qui va attirer beaucoup de défense sur lui. Evan Fournier, je pense que c'est un bon choix.
Attention à Nadir Ifi qui a bouffé beaucoup de ballons, Fred.
Je ne suis pas sûr que Nadir Ifi fasse partie de cette sélection.
Et on remercie Léna Marjac qui était au tirage au sort et qui nous a permis d'être en direct avec Céline Dumerc et Boris Diaw. À la semaine prochaine. RMC Basket Time.